Radio Indundi Culture, le journal.
Alice Ndaïdzeye.
Kofi Olivier Benoît assure la mise en onde. Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante et CENI a annoncé ce vendredi le report des activités liées à la distribution des cartes d'électeurs qui étaient prévues ce vendredi 2 mai en date du 12 mai jusqu'en date du 14 mai de cette année en cours. Le budget général de l'État 2025-2026 va augmenter de 13,7% par rapport au budget de l'exercice en cours. Les enseignants bénévoles en Provence et Makamba déplorent leurs conditions de travail suite aux faibles revenus vu la cherté de vie actuelle. Et dans la chronique culture que vous propose la rédaction chaque vendredi, aujourd'hui nous vous parlons des présages du mal dans la société burundaise. Dans un instant, les détails.
Radio Indundi Culture.
Bienvenue encore une fois. La Commission électorale nationale indépendante et CENI a annoncé ce vendredi le report des activités liées à la distribution des cartes d'électeurs qui étaient prévues ce vendredi et qui ont été reportés en date du 12 mai jusqu'en date du 14 mai de cette année en cours. Le président de la CENI a signifié que ce report est dû à la préparation du lancement officiel de la campagne prévue le 9 mai 2025 à Gitega par le président de la République, Prosper Ntaugwamiye. A noté pourtant que le calendrier de la campagne électorale est resté maintenu. On l'écoute.
Le chronogramme initial, c'est que la période de distribution des cartes d'électeurs allait commencer le lundi 5 mai jusqu'au mercredi 7 mai, c'est-à-dire 3 jours calendriers. Nous nous sommes rendus compte qu'il risque d'y avoir chevauchement d'activité puisqu'il y a une activité d'envergure nationale qui va se réaliser au courant de cette même semaine. Nous avons jugé bon de décaler ces activités pour que l'activité du 9 soit une réussite et nous profitons de l'occasion pour annoncer officiellement que finalement la période de distribution des cartes d'électeurs électeurs sera du lundi 12 au mercredi 14 mai 2025 et nous invitons la population à se préparer pour récupérer au maximum possible les cartes d'électeurs. Au courant de la semaine du 5, un spot radio-télé va commencer à passer à la radio. Nous pensons que à partir de la semaine prochaine, les choses vont continuer à bien fonctionner, à bien marcher. Et en cas de problème, le dialogue est ouvert. Nous sommes toujours en contact permanent avec les différents partenaires électoraux.
Le collectif des organisations féminines dit l'initiative Parité 2030 juge que la représentativité chez les femmes est restée encore faible dans certaines instances de prise et de décision. La vice-présidente du dit collectif signifie que même les 30% n'ont pas encore atteint. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, l'activiste Denise Ilambona a souligné que leur vision est d'atteindre au moins 50% d'ici en 2030. Je vous propose de l'écouter.
Nous constatons que dans certaines provinces, on n'a même pas 1%. Oui, il y a des provinces qui représentent 30 et plus députés, mais il y a d'autres qui n'ont aucune femme. Mais des fois, on dit que la femme, certaines femmes n'osent pas ou c'est interdit pour elles d'utiliser l'argent ou autre chose pour se faire élire. Alors, nous lançons un appel aux hommes d'encourager beaucoup leurs femmes d'abord et les femmes de l'entourage, surtout dans les élections collinaires. Mais en commençant par les élections prochaines du mois de juin, juillet, il faut nous lancer un appel aux médias aussi de nous aider à la sensibilisation, surtout de la femme rurale, d'élire lors des élections des députés et de se faire élire aux élections communales et collinaires. Des fois, la majorité des femmes, oui, dans les partis politiques, on place les femmes, deux hommes et une femme.
La Commission Vérité et Réconciliation invite les victimes du passé douloureux à ne jamais saisir la Commission comme un mécanisme judiciaire et surtout pour des dossiers qui normalement devraient être traités par la Commission nationale des terres et autres biens dont le mandat a déjà pris fin actuellement. Au cours d'un point de presse animé ce vendredi, le président de la CVR a tenu à rappeler qu'elle n'envisage que la médiation des parties en conflit. Je vous propose de l'écouter.
les missions antérieurement confiées à la commission CNTB de traiter les conflits liés aux fonciers et aux autres biens vont être traitées désormais par la commission Vérité et Réconciliation grâce à une nouvelle loi promulguée en mai 2024. Nous venons de mettre en place des équipes provinciales. Ils vont être basés dans les provinces, ils vont enquêter et nous allons travailler en synergie pour conduire de meilleures enquêtes. La CVR n'est pas un mécanisme judiciaire. Dans la loi, c'est marqué ainsi, la CVR ne va pas mettre en opposition deux personnes ou trois personnes, comme si on était dans les tribunaux. La CVR va réunir deux ou trois personnes dans le cadre de la médiation, de la réconciliation et du partage de cette vérité qui vient d'être découverte. Quand je dis vérité découverte, ça veut dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont des titres manifestement frauduleux dans leur maison et qui croient qu'ils sont propriétaires alors qu'ils sont possesseurs. Il faut, pour avoir la paix, réparer cette blessure morale et cette blessure matérielle. Une veuve qui reste avec 5 enfants et qui ne peut plus les enseigner, elle est victime 1000 fois. Voilà pourquoi il ne faut jamais confondre la justice des cours et tribunaux et la justice transitionnelle qui intervient là où la justice classique a été défaillante.
Les enseignants bénévoles en Provence et Makamba déplorent leurs conditions de travail suite aux faibles revenus vu la cherté de vie actuelle. Cela impacte alors leur part de contribution dans ce domaine éducatif. Ils demandent d'être privilégiés lors d'embauches dans ce secteur. Serge Sindaigai.
C'est l'un des enseignants vacataires de la province Makamba exprime les ras-le-bol en ce qui concerne leur rémunération. À cette rémunération dérisoire, disait-il, il est difficile d'assurer correctement les mission d'enseignant. Ils évoquent également en cours d'eau la vie devenue insupportable. Ces derniers, face à cette situation, ils lancent un appel au gouvernement burundais pour qu'il prenne ses responsabilités, car actuellement, ce sont les parents d'élèves qui assurent leur rémunération. Signalons que la province de Makamba fait face à une pénurie de plus de 700 enseignants pour cette année scolaire, selon les autorités éducatives. Depuis Makamba, Serge de Sindaigaya pour la radio Indondi Culture.
Radio Indondi Culture.
Radio Indodiculture, nous poursuivons notre journal. Les habitants de la province Kayanza sont appelés à rompre avec la fraude basée surtout sur le commerce clandestin de minerais, le café et d'autres produits locaux par le fait qu'il est préjudiciable à l'économie du pays. C'est un appel qui leur a été lancé ce jeudi par Fabrice Nkurunziza, le deuxième vice-président du Sénat. Jean Nahimana nous en dit plus.
Au cours de ces cérémonies, le gouverneur de la province Kayanza, Rémi Chichayo, dans son discours, fait savoir que la journée arrive au moment où les habitants de la circonscription sont au travail et surtout aux activités agricoles, du moment que la province Kayanza a mis en avant la promotion du secteur agricole. Il a embrayé en invitant les mêmes habitants à entretenir les cultures industrielles qui sont le café et le thé, surtout que le gouvernement a récemment promis de revoir à la hausse le prix du thé. Une démarche qui, selon toujours Rémi Chichayo, conduira à l'atteinte de l'objectif 2040-2060. Quant à Fabrice Nkurunziza, le deuxième vice-président du Sénat qui s'était joint à la population de la province Kayanza dans ces cérémonies, a dans son allocution demandé à la même population de rompre définitivement avec le commerce clandestin des minerais, du café et autres produits locaux par le fait que pareille pratique reste préjudiciable à l'économie du pays. Il a profité de cette même opportunité pour inviter les militants des différents partis politiques à mener la compétition dans le respect mutuel au cours de la prochaine campagne électorale. Signalons tout compte fait que les cérémonies se sont clôturées par la remise des certificats d'honneur et des enveloppes à 15 personnes qui ont le plus travaillé au courant de l'année, notamment par la réalisation des œuvres exceptionnelles. Depuis 15 ans, Jean Neymar pour la radio Inode Culture.
Merci, agent Nahimana. Un délai ne dépassant pas 3 jours a été donné au bureau burundais de normalisation par le président de la République du Burundi ce jeudi lors de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs afin que chaque opérateur économique qui certifie ses produits ait des facilités. Évariste Ndayishimiye a expliqué qu'il passe beaucoup de temps dans le processus de certification dans cet organe étatique. Le numéro 1 burundais a révélé que ses investisseurs préfèrent certifier leurs produits à l'étranger et cela paralyse l'économie nationale. On l'écoute dans la traduction de Jean de Dieu Nahiman.
Vous vous rendez compte? Deux jeunes se sont regroupés pour élaborer un projet et ils ont présenté leurs produits au BBN pour certification. Ils m'en ont parlé il y a moins d'un mois. Le BBN a refusé de certifier leurs produits. L'un d'eux est allé chercher cette certification au Canada où il a été confirmé que ces produits respectaient bien les normes. Actuellement, il a marché au Canada et aux États-Unis. Pourtant, jusqu'à présent, le BBN n'a jamais certifié ses produits. Pourquoi? Parce qu'ils sont corrompus. Vous imaginez, le BBN a clairement indiqué que ces produits ne respectaient pas les normes et n'étaient pas de qualité. Alors qu'au Canada, ces mêmes produits ont été validés. Si j'étais l'auditeur général du BBN, j'aurais immédiatement démissionné. Comment allons-nous nous développer si ceux qui sont censés nous accompagner nous freinent? Imaginez l'opinion que ce jeune entrepreneur a maintenant du BBN. J'ai moi-même visité les bureaux du BBN. Ils n'ont même pas de désinfectant dans leur laboratoire. Je me suis demandé quel type de résultats peuvent-ils bien fournir. Vous imaginez, quelqu'un importe des marchandises et on lui refuse l'entrée pour permettre à un autre de vider son stock. Des ponts de vin, on freine certains pour favoriser d'autres. Et vous, le personnel du BBN, vous croisez ceux qui vous critiquent. Vous m'entendez? Normalement, vous ne devriez même pas oser défiler devant moi, sachant que je suis informé de la situation. Une personne crée une entreprise et vous lui refusez la certification, alors que vous êtes censé l'accompagner, le guider. Si quelqu'un apporte un produit au BBN pour une analyse, il ne faut pas que 3 jours passent sans réponse. Il faut travailler.
Le budget général de l'État 2025-2026 va augmenter de 13,7% par rapport au budget de l'exercice en cours. Le ministre du budget, Nestor Naounouye, à l'occasion de l'analyse et l'adoption du projet de loi portant budget général de l'État 2025-2026, a indiqué que pour augmenter les recettes et éviter l'inflation, plusieurs mesures ont été prises, entre autres que les employés qui ont un salaire de 500 000 et plus vont contribuer à hauteur de 0,25% de leur salaire. Les taxes sur l'exploitation des minerais qui étaient à 0,7% seront désormais à 16%. Le ministre ajoute que des mesures pour la bonne gestion du budget général de l'État ont été aussi prises. Jonta Iratouz.
En séance plénière de ce vendredi, lors de l'analyse et l'adoption de ce projet de loi portant budget général de l'État de l'année 2025-2026, le ministre du budget, Nestor Naounouye, a annoncé que ce projet va augmenter de 13,7% du budget général en cours. Il a expliqué que des employés payés à hauteur de 500 000 francs burundais de salaire mensuel vont désormais contribuer à hauteur de 0,5% de ce salaire. La taxe sur l'exportation des minerais passe de 7% à 16%, sans oublier la hausse des prix des documents de voyage et le permis de conduire. Malgré la hausse du budget général de l'État, des députés comme Simon Bizimungu déplorent le faible budget alloué au secteur agricole qualifié de prioritaire par l'État burundais, où il ne recevra que 9% du budget général, alors que des conventions internationales plaident pour au moins 10%. Le ministre Naounouye a dit que le budget alloué à l'agriculture a augmenté par rapport à celui de l'exercice en cours. Le taux de 9% semble être très faible, car le dénominateur commun, donc le budget général, a augmenté, explique-t-il. Le projet de loi portant budget général de l'État 2025-2026 a été ensuite adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale.
L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités demande aux décideurs politiques de faire le tout possible pour trouver solution au manque de devises dans le pays. Dans un point de presse animé ce vendredi, le président de la PARSEM a indiqué que cela pourrait contribuer à la revue à la baisse des produits de première nécessité. Faustin Ndikoumana a précisé que sans devise, il n'est pas facile d'atteindre la vision 2040-2060, on l'écoute.
Le point d'achoppement, ça a été le dualisme entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle. Mais j'imagine qu'on ne peut pas décoller économiquement tant que ce différentiel de change est là. Il faut prendre des mesures concrètes. Les mesures vont de nature d'abord à disponibiliser aussi des réserves de change pour soutenir ce rapprochement. Le rapprochement se fait de façon progressive. outre la libéralisation qui pourrait permettre aux devises de rentrer au pays, il faut que la banque centrale aussi ait la capacité aussi de mettre des fonds sur le marché de change. Malheureusement, on vient de reculer avec l'exemple de la rétrocession des devises des banques commerciales à la banque centrale.
Radio Indondi Culture, chronique culture.
Vous l'aurez bien suivi, c'est la page chronique à présent, la chronique culture que vous propose la rédaction chaque vendredi. Nous parlons aujourd'hui des présages et du mal dans la société burundaise. C'est en fait un moyen d'amortir le choc pour un mal pouvant surgir dans la société, selon Ferdinand Mberamihigo, enseignant, chercheur et spécialisé en littérature africaine et culture. Une conception crue comme telle est transmise de génération en génération. La chronique culture est signé Norris Ndouiman.
Avec l'analogie due aux relations entre l'homme et la nature sur base de la manière dont le bien et le mal ont depuis des années été annoncés, Dr. Ferdinand Mberamihigo estime qu'il est tout à fait normal que les présages guident toujours la société burundaise.
Par exemple, un animal qui a un cri lugubre, un cri de détresse, pour lequel les Burundais disent qu'il présage du mal. Parce qu'on ne saurait comprendre comment un cri lugubre peut donner lieu à quelque chose de positif. Donc, c'est cela en fait le lien objectif qu'on peut voir dans certains présages. Mais sinon en fait, celui qui fait le présage n'a pas objectivement ce lien entre le fait et ce que ça présage.
Et à la question de savoir la genèse de cette réalité sociale, l'enseignant-chercheur parle de l'expérience vécue qui se transmet par la suite de génération en génération.
C'est l'expérience personnelle où une personne peut vous dire quand il y a ceci, il y a cela. En fait, c'est interprété comme des signes avant-coureurs. Des signes avant-coureurs qui débouchent nécessairement sur une certaine situation. Cela étant perçu tout à fait naturellement comme en fait une pluie qui apparaît où il y a en fait des nuages qui montrent qu'il y a la pluie. Alors de la même façon, on glisse de ces signes objectifs, par exemple, qui sont liés aux saisons, vers des signes qui sont peu objectifs.
Cela étant, ce professeur d'université reconnaît une certaine limite de la recherche sur la culture quant à l'explication des présages qui, à l'ère de la modernité, se glisse vers la croyance religieuse.
Ça dépasse la question de la culture et ça rentre dans le cadre de la psychologie et même de la parapsychologie. Et ce sont des questions qu'on s'est toujours posées parce qu'en fait, ça dépend de la manière dont chacun croit à la réalisation effective du présage. C'est des questions en fait qui ne peuvent pas être expliquées par quelqu'un qui fait de la recherche sur la culture parce que ça va au-delà.
Quid alors de la valeur et du rôle des présages dans la société ancestrale au Burundi, Dr. Ferdinand Mberamihigo?
Il y a un besoin de se prémunir contre le mal, mais également un besoin de préparation de ce qui peut se passer. Et ainsi, d'une certaine manière, quand quelque chose se revient et qu'on se met à faire une rétrospective, on trouve que les signes étaient là. Disons, le choc n'est pas aussi dur que si on se demandait d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce que ça arrive. Ça survient comme une façon d'expliquer ce qui se passe et ainsi d'accueillir cela d'une façon douce, d'une façon recevable.
Ainsi donc, le monde cherchant toujours à se libérer du mal, la culture de bénédiction a pris tard pris place avec bien sûr la relation entre l'homme et la nature. Nous y reviendrons dans notre prochaine chronique culture.
Merci à Norris Ndouimana. Et voilà, chers auditeurs, c'est par là que nous bouclons notre édition. Merci à Kofi Olivier Benoît qui a assuré la mise en onde. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Bonne suite de programme. Au revoir.
Alice Ndaïdzeye.